Là, je me sens bizarre. Je sais pas, je suis pas du tout, je te jure. Là, j'ai encore un truc à dire.
Non, ça va pas trop.
Oh là là, je me sens bizarre. Non, c'est comme chez un psy, je raconte. J'ai encore un truc à dire. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que ça raconte? Bah ouais, on passe à la radio.
Silence Radio. La radio des schizos, la radio des paranos, la radio des gens pas réglos.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Silence Radio, l'émission bruxelloise radiophonique axée sur la santé mentale et ses liens avec la société. On est tout content de vous retrouver, nous, c'est-à-dire Thomas. Bonsoir,
bonsoir.
Thomas. Valérie, bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Gwendoline.
Bonsoir.
Et là-bas, la technique, c'est Aurélie. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Aurélie.
Pascal au micro. Nous sommes en direct du studio de Radio Panique à Saint-Josse-Bruxelles. Et comme tous les troisièmes lundis du mois, on parle, on discute, on débat. Ce soir, ce sont les questions liées à la médiation en santé mentale qui vont nous occuper. Et qui dit médiation dit droit du patient. La loi sur les droits du patient a 18 ans, tout juste. La loi sur les droits est donc majeure, c'est ce que nous allons voir. C'est la question qu'on va se poser, entre autres, l'une des questions que nous allons nous poser ce soir. Et nous avons pour répondre à nos questions deux invités. Nous avons le plaisir, en effet, d'accueillir dans ce studio Marie-Noëlle Verhagen. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médiatrice au service de médiation fédérale droit du patient ou des patients ?
Droit du patient.
Voilà. Et Madame Cindy Mottet, qui
Bonsoir.
Est médiatrice au Grand Hôpital de Charleroi et également présidente de l'Association des médiateurs en institution de soins. Bonsoir, Madame Mottet. C'était important de vous inviter toutes les deux parce que vous n'exercez pas tout à fait la même fonction. Vous êtes médiatrice toutes les deux, mais vous n'exercez pas la même fonction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, en quoi consiste cette différence, en fait?
Oui, en réalité, nous exerçons bien la même fonction, dans le sens où nous sommes toutes les deux des médiateurs, mais en réalité, nous exerçons cette fonction dans des contextes différents. Moi-même, je travaille donc au service de médiation fédérale droit du patient, qui est un service situé au SPF Santé publique à Bruxelles. C'est un petit service composé de 5 personnes, et en fait, sa mission principale consiste à traiter des plaintes de patients manifestés vis-à-vis de professionnels de la santé qui travaillent dans le secteur extra-hospitalier. C'est-à-dire que nous traitons des plaintes manifestées vis-à-vis de professionnels qui travaillent dans des cabinets privés, comme des médecins généralistes, des médecins spécialistes, des dentistes, des kinés, des logopèdes. Nous sommes amenés à traiter des plaintes manifestées vis-à-vis de professionnels qui travaillent à domicile, en maison de repos et de soins, vis-à-vis de professionnels qui travaillent dans des cliniques privées et qui font des prestations à visée esthétique. Et il nous arrive parfois aussi de traiter des plaintes qui concernent des médecins experts ou contrôleurs, parce que la loi s'applique aussi à la médecine de contrôle et d'expertise. Donc, mon secteur, c'est vraiment le secteur extra-hospitalier, tandis que ma collègue Cindy Mottet.
Voilà, donc je suis une médiatrice locale et je suis présidente d'une association de médiateurs locaux. C'est-à-dire que nous sommes dans les institutions médiateurs dans le cadre donc de la loi des droits du patient, soit dans les hôpitaux généraux, soit au sein de plateformes de concertation en santé mentale. Et donc ce sont donc deux types de médiateurs locaux qui exerçons dans le cadre de la loi des droits du patient.
Je disais tout à l'heure que la loi sur les droits du patient a 18 ans cette année. Donc, est-ce que vous pouvez brièvement, c'est pas possible, je veux dire, mais simplement expliquer quels sont ses droits, en fait, parce que souvent on oublie peut-être que le patient a des droits, et vous parliez tout à l'heure de kiné, de dentiste. Moi, j'avais le sentiment que c'était souvent des médecins ou des infirmières, mais effectivement, c'est plus large que ça.
Oui, en réalité, la loi relative aux droits du patient met en évidence 7 droits. Il y a tout d'abord évidemment le droit de base qui est le droit à la qualité des soins. C'est un droit qui n'est pas fort défini. Mais la loi permet quand même de mettre en évidence deux aspects de ce droit à la qualité. Le patient a un droit à la qualité des soins au sens technique, c'est-à-dire que le professionnel, évidemment, doit octroyer des soins au regard des besoins du patient. Hein, chaque patient n'a pas nécessairement besoin du même traitement. Les travaux préparatoires de la loi disent aussi que le praticien doit veiller à octroyer des soins en fonction de la technologie disponible, en fonction des connaissances actuelles de la médecine. Donc là, on parle bien de la qualité au sens vraiment technique. Le professionnel doit agir selon les règles de l'art. Et on dit souvent, dans ce cas-là, que le professionnel a une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. Il doit tout faire pour octroyer les meilleurs soins possibles. Mais il y a un deuxième aspect qui ressort de la loi. Quand on parle de qualité des soins, c'est aussi l'aspect plutôt éthique, moins technique, mais éthique. C'est-à-dire que le professionnel doit évidemment aussi être amené à octroyer des soins en respectant la dignité du patient, en veillant à son autonomie, en veillant à ne pas faire de discrimination, de distinction. Voilà, donc ça, ce sont les deux aspects qui ressortent de la loi par rapport au droit à la qualité. Le professionnel doit aussi évidemment informer le patient sur son état de santé. Je ne sais pas si vous voulez que je développe ou on verra peut-être ça.
Oui, on verra peut-être tout à l'heure. Moi j'avais déjà une question en parlant de la qualité des soins. Enfin, j'espère que ça rentre dans ce cadre-ci. Mais c'est vrai qu'en travaillant un petit peu, en préparant l'émission, vous parlez. Je sais que les personnes en santé mentale ont beaucoup de griefs parfois vis-à-vis des professionnels de soins parce que celles-ci communiqueraient mal ou seraient pas suffisamment empathiques ou à l'écoute. Et ça, je ne pense pas que ça rentre dans ce cadre-ci de qualité des soins. Pourquoi et comment?
Je pense que si, hein. Je pense que la communication fait partie de la qualité des soins. Et en fait, l'aspect communication se retrouve presque dans tous les droits du patient. Parce que quand on dit que le professionnel doit informer le patient sur son état de santé, doit obtenir son consentement à un traitement, etc., bah, il faut bien que le professionnel lui explique ce qui se passe, lui explique quel est le diagnostic, lui explique quel est le traitement proposé. Et donc l'aspect communication est évidemment fondamental. Et là, bon, je pense que tous les médiateurs sont d'accord pour dire qu'il y a sans doute encore des efforts à faire, peut-être au niveau des formations à la communication pour les professionnels de la santé. Je pense que au niveau... Oui, pardon.
Non, je vous en prie qu'on
peut... Oui, au niveau de la formation de base des professionnels, je pense qu'on peut encore aller plus loin. Évidemment, on est dans un pays compliqué puisque tout ce qui touche à la formation touche à la compétence des régions. Par contre, la formation permanente concerne la compétence de l'État fédéral. Mais je pense qu'on se rend compte que dans chaque plainte que nous recevons, enfin, je pense, il y a toujours derrière, même si la plainte fait référence à un aspect technique du soin, derrière, il y a souvent un problème de communication. Et je pense qu'en santé mentale, ça doit certainement être...
La fin.
Oui, oh, pardon.
Justement, puisqu'on parle de communication, en fait, tantôt vous aviez bien évoqué que la qualité des soins dépendait, il y avait la qualité des soins au sens technique et au sens éthique. Et au sens éthique, c'est assez intéressant, on en a parlé pendant la préparation de l'émission. Donc vous dites que c'est respecter la dignité du patient en veillant à son autonomie. Et j'aurais voulu savoir comment vous, évidemment ce n'est pas vous personnellement, mais comment dans la loi de 2002, cette autonomie est définie et la dignité aussi est définie. Et je me demandais aussi si cette loi avait fait appel dans sa construction à des personnes usagères, en fait, à des personnes qui ont souffert de troubles psychiques dans leur existence.
La loi, en fait, a été rédigée après des très longs débats en 2002 au Parlement. Et donc, je pense qu'on a vraiment fait attention à écouter des représentants de patients, des associations représentant des patients. L'autonomie, c'est vrai qu'elle n'est pas définie en tant que telle dans la législation, mais on voit que on veut mettre en évidence quand même le rôle du patient, puisque on lui dit qu'il peut demander d'accéder à son dossier, on lui dit qu'il peut, s'il n'a pas bien compris son état de santé, demander une confirmation écrite de son diagnostic. Donc il y a plusieurs petites choses qui montrent qu'il peut avoir un rôle actif et qu'il faut évidemment respecter son consentement ou son refus.
Justement, par rapport à ça, encore une fois, dans la préparation de cette émission, on a ramené sur la table des exemples de personnes qui, malgré leur sollicitation auprès des professionnels à accéder au dossier, en fait, leur demande était refusée. Mmh. Et on se demande alors, dans quel cas, enfin, est-ce que c'est pas contraire à la loi, tout simplement, que les dossiers soient refusés ?
Mais c'est clair que, selon la loi, le patient, il a le droit d'accéder à son dossier. Donc ça, c'était une nouveauté dans la législation relative aux droits du patient. Mais il est vrai qu'il y a quand même une exception et qui est parfois, il faut bien le dire, utilisée en santé mentale. C'est ce qu'on appelle cette fameuse exception thérapeutique. C'est-à-dire que le législateur dit que si le professionnel pense que le fait de communiquer de manière brute une information sur l'état de santé du patient risque de lui faire plus de mal que de bien, si ça risque de causer un préjudice grave à sa santé psychique, il peut momentanément ne pas communiquer directement le dossier. Mais bon, c'est envisagé comme une exception. Donc le principe, c'est quand même la transparence. Et donc, s'il y a une difficulté, si le patient veut vraiment, vraiment accéder à son dossier, bah, justement, il peut peut-être faire appel à un médiateur pour voir comment on peut discuter avec le professionnel. Peut-être que le professionnel sera d'accord, mais en accompagnant le patient dans sa lecture du dossier. Et si vraiment le professionnel persiste dans son refus de communiquer certaines informations issues du dossier, si le patient veut vraiment aller plus loin, il peut, s'il le souhaite, désigner un intermédiaire, un professionnel intermédiaire qui pourrait aller voir le dossier. Mais évidemment, ce n'est qu'un accès indirect. Mais bon, je pense que...
Est-ce que par hasard, vous avez des chiffres par rapport aux refus ou aux acceptations de dossiers ?
Au niveau de la santé mentale, je n'en ai pas, parce que travaillant dans le secteur extra-hospitalier, d'accord, en fait, nous avons relativement peu de plaintes concernant, mais dans la médecine générale.
Madame Motet, peut-être.
Par rapport à, je voudrais revenir sur l'implication des usagers de santé mentale. En 2001, avant la promulgation de la loi, il y a eu un projet pilote de médiation en santé mentale, et donc on a exercé la fonction de médiation à l'époque, et j'ai fait partie de ces médiateurs qui débutaient la fonction alors qu'elle n'existait pas encore légalement dans le secteur de la santé mentale. C'était l'année de la santé mentale à l'époque et ça avait été décidé comme ça. Et donc, on a pu exercer, mettre en place cette fonction qui était toute nouvelle avec l'appui des équipes dans les institutions de santé mentale, mais aussi avec la grande collaboration des patients.
Très bien. Et par rapport juste à la question, est-ce que vous avez des chiffres des acceptations ou des refus des professionnels en
santé mentale ? Alors, il faut savoir que, comme Marie-Noëlle le soulignait, la qualité des soins est un des droits qui est les plus importants et qui est le plus souvent sollicité dans les plaintes qui nous sont adressées. Et c'est pareil en santé mentale. Donc, voilà, viennent après les...
Ça représente environ 30% ou quelque chose comme ça ? Oui.
Moins, je pense.
Par rapport à
par rapport à l'ensemble,
c'est moins
que ça. Oui.
Mm-hmm. Parce que vous avez, en tout cas, enfin, si je reprends les chiffres de la santé mentale, hein, c'est surtout des problèmes de communication, donc comme on a déjà parlé, qui sont souvent à l'origine des malentendus ou des incompréhensions. Mais viennent après l'accès au dossier, le consentement, peut-être plus spécifiquement en santé mentale que dans les hôpitaux généraux. Et la qualité des soins représente au moins 50% des plaintes qui sont adressées.
Droit au libre choix du professionnel, je sais pas, on en a parlé déjà ? Non, pas encore.
Non, donc là, c'est aussi en Belgique un droit fondamental. Le patient peut choisir le professionnel qui est amené à le soigner. Il peut changer s'il sent qu'il n'y a pas une réelle confiance qui est nouée. Il y a des exceptions légales, le légiateur, là aussi. Mais...
Entre parenthèses, c'est valable pour lui aussi, parce que je veux dire, oui. c'est pas dans la loi de 2002, mais je veux dire, c'est valable aussi pour un médecin de ne pas. Enfin, c'est son choix de ne pas suivre un patient s'il considère pour des raisons personnelles ou autres. On peut être étonné aussi de ça. Ouais. Mmh.
Oui, c'est vrai. En fait, comme on est dans le cadre vraiment d'une relation, il y a deux individus qui sont présents. Bah, de part et d'autre, on peut s'imaginer que la confiance n'est peut-être pas de mise des deux côtés. Et donc, si le professionnel ressent une certaine difficulté pour construire cette confiance avec un patient, il peut, c'est prévu dans le code de déontologie des médecins notamment, et même dans un arrêté royal qui concerne les professionnels de la santé en général, il peut rompre la relation de soins, mais attention, il ne peut pas l'abandonner. Donc il est censé veiller à la continuité des soins, donc à faire quand même des efforts pour orienter le patient vers des alternatives, vers d'autres confrères.
Droit à l'information. Donc ça, c'est tout ce qui concerne ce qui est dit au patient quand il doit, recevoir des soins, quels qu'ils soient, j'imagine. On peut peut-être parler de la mise en observation à cet endroit-ci. Comment ça se passe concrètement quand un médecin doit informer un patient de... d'une hospitalisation sous contrainte, par exemple, comment...
Mais en fait, la loi des droits du patient ne vient pas au-delà de la loi de mise en observation, par exemple. Un patient qui interpellerait le médiateur concernant cette décision de mise en observation, le médiateur est neutre et impartial. Il n'a pas de jugement, d'avis à donner ni sur la plainte, ni sur le bien fondé de la plainte. Et donc, mais il n'a pas de position à prendre et il n'est pas un recours par rapport à la décision de mise en observation, par exemple.
Valérie. Oui, par rapport à ça, je voudrais poser une question. Donc, un patient mis en observation par le juge et qui refuse un certain médicament, est-ce qu'il peut faire appel au médiateur pour dire « voilà, ce médicament-là, il est très mauvais pour moi, je le refuse ».
On est sur la question du consentement, alors. Le droit au consentement, donc le droit de consentir ou de refuser un soin ou un traitement. Et donc, effectivement, à nouveau, le médiateur ne peut pas trancher, n'a pas d'avis, de décision à prendre, mais il peut aider au dialogue entre le prestataire de soins et le patient. Et je pense que dans une question comme celle-là, ce qui est surtout important à discuter, à dialoguer, c'est la continuité de ce consentement ou de ce refus, en tout cas de le re-questionner régulièrement. Pour arriver à un consensus avec le prestataire de soins.
Et en pratique, qu'est-ce qui prime le plus souvent? C'est le fait qu'on dit au patient, le juge vous a placé, on vous soigne malgré vous, selon nos techniques? Ou est-ce que le patient est écouté et respecté dans sa demande, dans son refus, selon la loi du patient?
En tout cas, le médiateur est là pour créer cet espace de dialogue. Tout à fait, mais on ne peut pas prendre de décision, on ne peut pas modifier une décision qui a été prise par un juge.
Mais si je peux rajouter quelque chose, donc théoriquement, ce n'est pas parce qu'un patient est mis sous observation, donc est admis de manière forcée dans une institution de soins, qu'il n'a plus la liberté de refuser ou consentir à un traitement. Donc il y a une différence entre l'admission forcée et le traitement forcé. Et voilà, donc le droit au consentement à un traitement, théoriquement, il est là. Mais bien sûr, c'est difficile dans le contexte de la mise en observation, parfois, étant donné qu'il y a quand même une contrainte qui est présente et les professionnels de la santé... Peut-être se sentent vraiment poussés à convaincre le patient de prendre tel ou tel médicament. Et s'il y a un souci, effectivement, je pense que le meilleur moyen, c'est de renforcer le dialogue. Parce qu'effectivement, théoriquement, aller devant un juge, devant les tribunaux, parce qu'on n'a pas respecté son droit au consentement, c'est compliqué. Donc...
Est-ce qu'elles, quelles seraient vos recommandations peut-être à ce niveau-là pour que les choses s'améliorent par rapport à ces plaintes-là qui sont sans doute assez fréquentes, j'imagine, parce que...
Oui, je pense qu'en tout cas, d'expérience, c'est difficile de faire une recommandation large sur ce genre de situation. On travaille beaucoup au cas par cas, en fait, avec chaque situation, aussi avec chaque attente, chaque demande qui est formulée et qui va être différente d'une personne à l'autre. Les motivations vont être différentes d'une personne à l'autre. Et donc, c'est vraiment dans ce dialogue à deux, avec le médiateur, avec le soutien du médiateur, que les choses peuvent évoluer au cas par cas.
Pour que je me représente un petit peu la situation, parce que c'est assez abstrait pour moi, est-ce que quand il y a un conflit entre un soignant et un patient, est-ce que le médiateur vient sur place entre les deux personnes? Vous êtes à trois en train de discuter, est-ce que ça se passe comme ça?
Tout à fait, donc on est d'abord interpellé généralement par le patient ou par un proche, une personne de confiance, qui, voilà, si c'est une personne de confiance ou un proche, un autre patient qui nous interpelle pour le premier patient qui rencontre un problème, on va toujours aller voir vers le patient initial s'il partage la demande, si c'est lui-même qui vient nous voir directement, accompagné ou pas de proches. On va d'abord écouter la plainte, les doléances, en expliquant bien notre fonction, en dressant le cadre pour qu'il sache ce qu'il peut attendre de la médiation. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est neutre, on ne va pas prendre de position, ce genre de choses. Et en fonction de ce qu'il va nous raconter, on va déterminer... On va déterminer les attentes, et si la personne souhaite une rencontre, souhaite un dialogue, on va interpeller le prestataire de soins qui va alors donner son point de vue au médiateur. On aura entendu les deux points de vue et on va, si chacun le souhaite, organiser une rencontre de médiation.
Merci.
Je vous propose de revenir tout de suite sur tout cela après une petite pause musicale. On va écouter... pour mon plus grand plaisir, Siouxsie and the Banshees, Happy House.
Thank you.
bien voilà, de retour en studio, c'est Silence Radio. Et nous parlons médiation, loi sur les droits du patient. Nous avons comme invités ce soir Marie-Noëlle Verhagen et Cindy Mottet, toutes deux donc médiatrices. On parlait tout à l'heure, Madame Mottet, vous parliez tout à l'heure de la façon dont vous receviez les personnes dans votre bureau, c'est ça ? Mmh. Voilà. Quelles sont en fait les missions de la médiation, des médiateurs, des médiatrices ? Quelles sont les cinq grandes missions, je pense, de cette médiation ?
Donc le médiateur a pour mission de rétablir le dialogue entre le prestataire de soins et le patient, mais il a aussi des missions d'information sur les droits du patient, sur l'organisation de la médiation, sur cette fonction de médiation. Il doit aussi informer les praticiens professionnels. Il a une mission de recommandation, donc il doit pouvoir formuler des recommandations annuellement sur base des dossiers qu'il gère, pour éviter que des plaintes ne soient récurrentes. Et donc, on peut ressortir des thèmes annuellement qui font l'objet d'un certain nombre de plaintes, que ce soit au niveau, comme on l'a dit, de la qualité des soins, de l'information. Et donc, il va formuler des recommandations à l'institution, mais aussi aux instances fédérées.
Oui, Madame Verhagen.
Oui, je voulais encore juste préciser ceci, c'est que dans le cadre du processus même de médiation, hein, c'est un processus très particulier, donc le médiateur est amené à restaurer une communication entre le patient et le professionnel, et la loi dit qu'il est amené à aider les parties à chercher une solution. Donc en fait, ici, on ne parle pas de recherche de faute, on ne cherche pas à cibler vraiment une reconnaissance d'un manquement, mais on est à la recherche d'une solution. Donc on vise à sensibiliser le professionnel de la santé au mal-être du patient, à son mécontentement, au malentendu qu'il constate, qu'il ressent. Et on essaye de voir comment apaiser cette situation. Est-ce qu'on peut tourner la page via l'octroi d'un geste du professionnel ? Peut-être que parfois le professionnel accepte de faire un geste financier, sans reconnaître nécessairement une faute, mais simplement un geste quelque part de compassion ou un geste plus pratique.
J'ai lu de nouveau en préparant l'émission, on a bien préparé, que le professionnel ou en tout cas le médecin, je ne sais pas, hein, je ne voudrais pas, mais campait quand même beaucoup sur ses positions, non ?
C'est évident que tout être humain qui reçoit une plainte se met dans la logique défensive. Hein. C'est tout professionnel. Je pense que même nous-mêmes, si on déposait plainte contre notre service, on serait humainement amené à nous mettre directement dans une logique défensive. Mais c'est justement là que le médiateur peut jouer un rôle. Et justement, ce qui nous différencie du secteur extra-hospitalier par rapport au secteur hospitalier, c'est que nous sommes un petit service situé loin géographiquement des professionnels et des patients. Ce qui veut dire que nous sommes obligés de contacter le professionnel via un courrier. Parce qu'il ne nous connaît pas du tout, donc on est amené à remontrer dans le courrier qui on est, on doit se présenter, on doit expliquer les règles du jeu. Et c'est vrai que là, on doit vraiment le rassurer. Rien que citer le mot « plainte », ça, c'est déjà catastrophe parce qu'on s'est rendu compte avec notre expérience que dans l'inconscient collectif, le mot plainte suscite directement une logique défensive. On pense tout de suite à la plainte qu'on dépose à la police, au pénal. Et donc, c'est le terme qui est utilisé dans la loi, mais nous, en tant que médiateurs, on essaye plutôt d'utiliser le mot doléance, mal-être, souffrance. Et on dit, voilà, on essaye d'avoir un répondant de votre part par rapport à ce que nous dit le patient. Et on essaye de faire bien la différence entre les faits que nous rapporte le patient, de son ressenti et de sa demande. Qu'est-ce que veut le patient ? Donc il faut essayer de rassurer le professionnel en faisant déjà un petit tri de la situation, en lui expliquant qu'on n'est pas là pour chercher une faute, mais voilà, pour voir comment on peut avancer dans le processus.
Comment le patient, lui, il est au courant de ce service de médiation ?
Alors en fait, je pense que les patients se posent la question de savoir s'il existe des services de médiation au moment où ils ont un problème. Avant, ils ne se posent pas forcément la question. Donc je pense que facilement, les patients regardent sur Internet et tombent, je pense, encore assez facilement sur le site du SPF Santé Publique où là, on reprend les coordonnées des médiateurs.
Et pour les institutions, alors
sur les sites Internet des institutions hospitalières, on va retrouver facilement cette information. Je pense aussi au site des associations de médiateurs, puisque je suis présidente de l'association des médiateurs en institutions de soins qui regroupe les institutions de soins en Wallonie et à Bruxelles francophone. Il y a aussi la Vovaz du côté flamand. Mais donc sur les sites internet des associations de médiateurs, on peut retrouver cette information. Et puis alors, il y a des affiches, des brochures. Dans les brochures d'accueil, nos coordonnées sont très souvent reprises. Et les membres du personnel eux-mêmes sont un vecteur d'information vis-à-vis des patients concernant la médiation.
Et pour reparler des plaintes en tant que telles, est-ce que vous pourriez me donner les chiffres du nombre de plaintes que vous recevez par an à Bruxelles et en Wallonie, et combien d'entre elles concernent la psychiatrie ?
Alors, on a des chiffres qui datent de 2017, hein, les derniers chiffres disponibles, puisque maintenant ce sont les entités fédérées qui gèrent les rapports que les médiateurs font. Et donc, en 2017, il y a pour les hôpitaux généraux 2184 plaintes, droits du patient, et en santé mentale, 115.
Ça, 115, c'est pour, très peu.
De Bruxelles.
De Bruxelles.
De Bruxelles.
C'est extrêmement peu, 115, non ? J'ai l'impression.
Alors, ce sont les plaintes relatives aux droits du patient. Il faut savoir que les médiateurs reçoivent aussi beaucoup de plaintes qui sont hors du cadre légal prévu par le législateur et donc les droits du patient. Oui. Des plaintes relatives à la logistique, à l'infrastructure, à tout ce qui est administratif également. Et donc, en tout cas, généralement, les chiffres sont plus ou moins 50-50 entre plaintes droits du patient et hors droits du patient.
C'est ça, donc plainte peut-être contre l'institution en tant que telle, alors ou...
Ou contre, je n'aime pas ce terme, mais en tout cas, une personne, un membre du personnel qui ne serait pas repris dans la loi des droits du patient, je pense à des fonctions, les assistants sociaux, par exemple, ne sont pas concernés dans les droits du patient, parce que légalement, ça reprend la liste des prestataires de soins relatives à la loi des hôpitaux. Et donc, il y a un tas de membres du personnel, par exemple, le personnel administratif n'est pas concerné par la loi des droits du patient, mais le médiateur peut recevoir des doléances qui concernent des membres du personnel autres que soignants.
Okay. Et donc, quand une plainte vous arrive, ça, on en avait parlé tantôt, en fait, du chemin de la plainte. Est-ce, peut-être qu'on n'en a pas parlé suffisamment, je ne sais pas. Tu en reparlais, Valérie, pendant la pause. Tu as peut-être envie qu'on en reparle autrement ou...
Non, je m'adressais à savoir les autres fonctions du médiateur. Celle d'information et...
Donc ça, c'est l'émission qu'on a soulignée tout à l'heure.
Et la mission de guidance, c'est-à-dire que en fonction du type de plainte qui nous parvient, on essaye de voir avec le patient si finalement la médiation est une bonne solution. Parce que parfois, des patients viennent et nous disent « Mais nous, ce qu'on veut, c'est que le professionnel soit sanctionné. On veut vraiment qu'il y ait un contrôle et qu'on le sanctionne. » À ce moment-là, on est bien obligé d'expliquer que la médiation n'est peut-être pas le bon chemin par rapport à sa demande. Et alors, on oriente le patient vers une alternative comme éventuellement l'ordre des médecins, ou bien ce qu'on appelle les commissions médicales provinciales qui peuvent un peu contrôler la manière dont les professionnels travaillent. Parfois, on oriente les patients vers aussi les tribunaux. Si vraiment on voit que c'est une plainte relativement sérieuse, qui touche plus les mœurs ou le domaine pénal. Si la plainte est très technique, parfois on oriente le patient vers les services défense des membres des mutuelles qui peuvent analyser plus techniquement la question de savoir si le praticien a commis une faute. Donc on a aussi ce rôle de guidance avant d'entamer une médiation pour voir si la médiation est le bon chemin, mais aussi après. C'est-à-dire que même si on a tenté une médiation et que le patient est insatisfait et qu'il est parfois même encore plus en colère, hein, parfois ça peut arriver que la médiation finalement ne parvient pas du tout à apaiser la situation et au contraire renforce le patient dans l'idée qu'il veut aller plus loin, que les choses ne sont toujours pas claires, qu'il veut mieux comprendre, ben alors là aussi on a une mission d'orientation. On est obligé en tant que médiateur de proposer des alternatives aux patients.
Encore une question qui est un peu éthique comme ça, c'est-à-dire que les plaintes souvent sont issues de personnes qui sont psychotiques en fait, et dont de manière générale la parole est quand même fort disqualifiée. Je voulais avoir votre point de vue par rapport à cette question.
Comme on l'a dit tout à l'heure, le médiateur est neutre et impartial, et donc on ne va pas juger du bien fondé de la plainte. Donc toute plainte peut être entendue, et puis après c'est le travail d'écoute et d'analyse de cette plainte-là. Moi je pense que derrière chaque plainte il y a une souffrance qui est exprimée, il y a des attentes, et il faut parfois plus de temps avec certains plaignants pour décortiquer la plainte et aller toucher ce qui est vraiment en question.
Par exemple.
Parfois plusieurs entretiens pour voilà. Alors c'est vrai que la temporalité au niveau de la fonction de médiation, on joue beaucoup avec ce temps en fait. Et parfois des patients qui viennent trouver le médiateur, imaginons par rapport après un décès par exemple, le décès d'un proche, avec des questions qui subsistent. Eh bien parfois les choses peuvent prendre du temps à se mettre en place, mais elles peuvent arriver à un moment donné où la personne peut mieux entendre certaines explications qui peut-être ont été données il y a un an au moment du décès, mais donc parfois des gens viennent nous voir avec des événements qui datent déjà d'un certain temps ou avec des demandes qu'on ne comprend peut-être pas toujours au début, mais il faut pouvoir décortiquer ces demandes-là. Je pense qu'on peut y passer plus de temps avec certaines personnes que d'autres, mais c'est le job du médiateur.
Ça se mesure en semaines, en mois, en...
Oui, ça peut. Oui,
ça peut, en ça année peut, peut-être. Oui.
Et okay. Alors avec les patients chroniques hein, dans des institutions en santé mentale, on peut aussi avoir quelque chose qui se construit parce qu'il y a une relation de confiance qui s'instaure aussi avec le médiateur. Et donc le médiateur n'est pas un thérapeute. Le médiateur est vraiment quelqu'un de tiers qui ne va pas intervenir dans la prise en charge, dans les décisions qui seront prises. Mais parfois, il peut devenir un confident, quelqu'un qui va peut-être un peu aider et soutenir le patient dans ses démarches auprès des patients. Prestataire de soins, oui, tout à fait.
Pour revenir à la loi de 2002, c'est pas une question spécialement de recommandations, mais de bilan peut-être qu'on pourrait peut-être faire de cette loi, de son application, comment ça se passe pour les personnes en santé mentale, surtout est-ce qu'il faudrait la changer? Est-ce qu'il faudrait, de votre point de vue, oui, vous êtes neutre de nouveau peut-être, oui, mais je suppose qu'il y a peut-être des choses à dire quand même sur cette évolution,
On peut toujours évidemment revenir sur les recommandations que les services de médiation font. Et donc, par exemple, je reviens sur les recommandations sur Bruxelles en 2017 où tout ce qui est lié à ce problème de communication dont on parlait au début de l'émission, une des recommandations était de créer des espaces de dialogue entre les patients et les prestataires de soins. Je pense qu'effectivement, le simple lieu d'une consultation ou du dialogue entre deux personnes n'est peut-être plus suffisant comme ça l'a été ou comme on pensait que ça l'était avant, mais vraiment de pouvoir ouvrir cet espace de dialogue, pouvoir y revenir, pouvoir...
Est-ce que vous constatez des progrès par rapport à ça? Parce que c'est vrai que, moi j'ai un peu la représentation d'une séance de thérapie avec un psychiatre où le psychiatre dit bonjour, le patient dit bonjour, et puis s'ensuit, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, énumération des symptômes, excusez-moi, je me bafouille un peu, mais on donne la prescription après, et puis merci, au revoir. Donc, je voulais savoir un petit peu par rapport aux communications, comment ça évolue, en fait.
Oui, mais je pense que les groupes de parole, ce genre de choses. Aussi maintenant, on entend beaucoup parler du patient empowerment. Donc voilà, que le patient soit beaucoup plus actif dans sa prise en charge. Et c'est d'ailleurs le seul devoir que le législateur a prévu du côté du patient dans la loi, c'est ce devoir de collaboration, de donner les informations dont lui a connaissance par rapport à son état de santé, par exemple, ou sur une prise de médicaments. Voilà, il faut qu'il puisse être en confiance avec le prestataire de soins pour lui parler de tout ça. Et je pense que ici, dans les institutions, on voit de plus en plus des patients partenaires. Et donc, on est dans cette mouvance d'ouvrir l'hôpital aussi dans l'organisation même aux patients.
Mais c'est vrai que pour les professionnels, il y a sans doute toujours cette recommandation que nous émettons depuis plusieurs années, comme j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est cette question qui consiste à peut-être renforcer encore les formations à la communication.
Mais comment vous pouvez expliquer ça? Parce que je veux dire, une infirmière, elle fait 3-4 ans d'études, parfois bien plus. Elle est formée à la communication, c'est son métier, c'est son job, c'est sa passion, c'est quelque part... Donc, il y a quelque chose qui m'échappe là.
Oui, c'est vrai. Je pense que dans le quotidien, face à des conditions de travail parfois très stressantes, il y a des réflexes de base qu'on oublie, qu'on lâche. Parfois, on oublie même de se présenter dans les hôpitaux. Des médecins passent, des infirmières passent, et le patient voit passer une série de personnes et perdu, il ne sait pas qui est venu l'examiner, le consulter. Donc, rien que le fait de se présenter, c'est déjà un premier pas vers la communication. Donc, je pense qu'il faut rappeler aussi dans la formation permanente des professionnels les réflexes à avoir. Et ça se fait tant au sein des institutions que dans le cadre de formation permanente. Et puis voilà, je pense qu'il faut pas oublier que c'est vrai que si on a peu de temps, je pense que c'est vrai que les professionnels sont parfois effectivement soumis à une certaine pression.
Mais voilà, on va passer à un tout petit morceau un morceau de musique. Et puis on aura donc la chance d'écouter Gwendoline qui va nous parler littérature. Voilà maintenant, alors, la musique, ça s'appelle Pony Hawks.
Nobody lives here. moyenne, nous venons de Paris. Les trous de mémoire ne sont pas facilités.
Excusez-moi, il y a eu une petite erreur. Aurélie vient de terminer la chanson maintenant, donc on va refaire la transition.
Pascal. Ok, désolée vraiment. Désolée, j'ai cru que on faisait un fondu là ou quoi. Non, c'était pas ça. Si c'était ça.
Alors, je suis désolée.
J'ai pas compris.
C'est moi qui ai. Non, c'est moi. C'est pas... toutes mes excuses. Pardon.
Ok, donc Gwendoline, je te donne la parole pour que nous puissions écouter en toute tranquillité ta rubrique littéraire.
Cette semaine, nous partons à la découverte de deux livres, Entraîner sa mémoire, publié chez Denoyel, et Booster sa culture générale, dans la même édition, nous venant de chez Belgique Loisirs. J'ai reçu les livres et je me suis alors dit que ce serait chouette de venir vous en parler un peu lors de cette émission à Psylance. Le premier livre s'intitule Entraîner sa mémoire. Les trous de mémoire ne sont pas fatalités, tout le monde est concerné, des ados aux seniors. Ce livre tente de répondre aux questions comment garder une mémoire d'éléphant, comment stimuler sa mémoire pour apprendre plus de choses, plus vite et mieux. Il existe, quel que soit votre âge, un remède infaillible aux trous de mémoire. Des astuces nutrition et un programme de 30 jours, jeux et exercices à la clé pour vous apprendre à vous souvenir des choses. Grâce à ce guide, nous dit le livre, vous appliquerez les secrets pour garder une mémoire plus longtemps et vous saurez comment se construit un souvenir et comment le faire durer. Il s'agit d'apprivoiser sa mémoire en 5 minutes. Pour améliorer les performances de sa mémoire, il faut savoir comment elle fonctionne et vous en saurez beaucoup plus sur les erreurs que vous commettez peut-être. Le livre tient à faire comprendre que nous avons plusieurs mémoires. Il parle du souvenir, de la cartographie de la mémoire et des secrets pour bien mémoriser, de l'importance de l'alimentation et de l'apport en protéines et glucides, ainsi qu'une bonne circulation sanguine. Ensuite, il donne des exemples concrets de l'exemple de l'alimentation à suivre sur une journée. Avant de se lancer dans le livre, des jeux et des exercices sont proposés chaque jour à votre sagacité. Ensuite, enfin, des questions mémoire pour comprendre comment améliorer sa mémoire. Ce livre a été écrit par Anne Dufour, journaliste indépendante, passionnée par la forme, la santé et les médecines naturelles. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages et Catherine Dupin, experte en cuisine gourmande, saine et express au quotidien. Ensemble, elles ont notamment écrit le grand livre de l'équilibre acido-basique et ma bible de l'alimentation détox. Le second livre dont je voulais vous parler, que j'ai reçu, est « Comment booster sa culture générale ». Le quatrième de couverture est très explicite et je cite « Overbooké, vous n'avez ni le temps ni l'envie de lire le dictionnaire, mais vous aimeriez bien prouver à votre entourage à quel point vous en avez dans la caboche. Il suffit de quelques minutes par jour, quotidiennes, pour apprendre un tas d'anecdotes qui vous permettront de retenir plus de choses. » Et plus rapidement. Vous découvrirez un tas de choses que vous saviez mais sans savoir que vous le saviez et que vous allez bientôt savoir en sachant que vous le savez. L'approche de la culture générale est décomplexifiée et doit se partager. En se focalisant sur des thèmes actuels et passionnants aussi bien d'histoire que de littérature, il est possible de faire croire à son interlocuteur qu'on est un être très cultivé. Ce livre comprend des mementos en bas des textes qui permettent une mémorisation claire, précise et exigeante, créée pour s'adapter facilement à la manière dont notre cerveau mémorise. Publié par Paul Sagard, professeur de lettres universitaires aux éditions Denoyel, nous venant de Paris.
Merci Gwendoline. Et nous sommes toujours en présence de Madame Mottet et de Madame Verhagen, toutes deux médiatrices, loi droit du patient ou quelque chose comme ça.
Il n'y a pas vraiment de terme, il n'y a pas vraiment de terme, la loi voilà. Droit du patient.
Donc... Valérie, tu avais quelque chose à pointer, en fait. Donc, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec la surcharge de travail des infirmières, des médecins.
Oui, on parlait du problème de communication entre les patients et les professionnels. Et j'aime bien ce mot communication. Je crois que c'est un problème général à notre société, le manque de dialogue et dans le dialogue, le manque d'écoute. Et moi, j'ai entendu à Bruxelles des infirmiers, des gens, des hôpitaux, des professionnels dire que leur hôpital est en crise, parler de manque d'effectifs, de manque de personnel. Et ça aussi, ça rejoint donc ça rejoint cette alerte qui dit voilà, il y a manque de communication qui crée des problèmes dans les soins.
Tout à fait. Madame Verhagen, vous avez envie de réagir?
Non, je pense qu'effectivement, c'est clair. Et on pense peut-être qu'on perd du temps en s'arrêtant, en communiquant, mais finalement, on en gagne beaucoup après, parce qu'en évitant les malentendus, ben, on évite peut-être justement des soucis ou des plaintes qui se manifesteraient par après. Et par ailleurs, plus on se rend compte que plus le professionnel communique, informe le patient sur son état de santé, sur la prestation, sur ce qui peut lui arriver, ben, je pense, et des études le démontrent, le patient est d'autant plus motivé pour collaborer à la gestion de sa propre santé. Et le patient, je pense, prendra plus facilement ses médicaments si on lui explique bien à quoi ça sert. Donc voilà, le dialogue qui passe à la fois par la parole mais aussi par l'écoute, je pense, ne peut faire qu'optimaliser la gestion de la santé du patient. Et c'est vrai que, bien sûr, les professionnels sont dans des conditions stressantes. Il ne faut pas oublier qu'il faut aussi agir à ce niveau-là. Mais perdre du temps pour parler, ce n'est pas une perte de temps, je pense.
Madame Mottet ?
Oui, j'avais envie de parler de l'objectif que le médiateur a. Et le législateur l'a prévu comme ça dans la loi des droits du patient, c'est un objectif d'amélioration. Et donc vraiment, quand on reçoit des patients, enfin moi je dis souvent, je les remercie de faire la démarche, parce qu'ils la font pour eux, mais ils la font pour l'institution aussi, ils la font pour les autres patients. Souvent ils disent, je veux signaler, je veux que ça n'arrive plus à d'autres. Et donc vraiment, je les remercie, parce que je dis souvent, si on ne sait pas ce qui pose problème, on ne peut pas s'améliorer. Et donc c'est vraiment dans cet objectif-là que nous, on va vers les prestataires de soins, avec des cas bien précis sur lesquels ils vont pouvoir réfléchir, mais peut-être ça peut ouvrir aussi de manière plus générale dans toute une équipe ou pour toute une institution des perspectives d'amélioration importantes.
Super, merci. Quelqu'un d'autre ?
Oui, moi je voulais un peu revenir sur le droit à la prise en charge de la douleur qu'on a peut-être évoqué lors de l'émission, mais pas vraiment... expliquer qui est dans un rapport que j'ai eu sous les yeux. Voilà, le droit à la prise en charge de la douleur, c'est quelque chose d'important. Vous avez de nombreuses plaintes à ce sujet?
Assez peu, en fait, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais on a assez peu de plaintes à ce sujet-là.
Dans le secteur extra-hospitalier aussi, très peu. Et en fait, c'est un droit qui a été rédigé quelques années après la promulgation de la loi de 2002. Donc il a été inséré, je pense, à la demande d'associations qui travaillent dans le cadre des fins de vie des patients et qui trouvaient que ça valait la peine d'attirer l'attention sur ce droit, mais qui en fait, je pense, fait partie du droit à la qualité des soins. C'est un aspect plus particulier de la qualité, bien sûr.
Il y a quelque chose d'intéressant. Enfin, moi, quand j'entends douleur, je pense à problèmes somatiques. Et en santé mentale, souvent, les plaintes liées à la... Enfin voilà, donc on ne fait pas toujours confiance, le médecin ou le prestataire de soins peut s'imaginer devant une plainte d'ordre somatique que c'est du... j'allais dire du n'importe quoi, faut pas exagérer, mais non, je veux dire que c'est pas à prendre en considération parce que ce serait psychosomatique ou quelque chose dans ce goût-là. Est-ce qu'il y a des plaintes de ce...
Oui, c'est un fait. Il y a des plaintes de cet ordre-là, effectivement. Et je pense que là, le rôle du médiateur est de pouvoir, à nouveau, dans le dialogue, sensibiliser les praticiens professionnels à cette problématique.
Oui, même si une plainte peut effectivement paraître, comme on l'a dit tout à l'heure, farfelue ou trop légère, bah, comme on l'a dit, le médiateur ne prend pas position. Et le fait de le relayer auprès du praticien, bah, ça peut peut-être faire quelque chose, dans le sens où le praticien peut dire, tiens, voilà, moi qui estimais qu'il n'y avait pas réellement de problème, j'entends qu'on me relaye quand même une souffrance. Ça peut peut-être le faire réfléchir.
Effectivement, une plainte ne laisse jamais indifférent. On parlait tout à l'heure de l'impact que ça avait auprès des praticiens professionnels. Ça ne laisse jamais indifférent. Et même s'il y a ces réactions de défense ou de justification, parce que parfois c'est ce que le praticien professionnel peut dire, je vais me justifier, je vais expliquer pourquoi j'ai fait comme ça et pas autrement. Mais voilà, il y a derrière tout ça une réflexion, et ça, je pense que c'est important aussi.
En vue d'une amélioration d'une situation, bien sûr.
Tout à fait.
Eh bien, merci. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc, Cindy Mottet, Marie-Noëlle Verhagen, donc toutes deux médiatrices droit du patient. L'émission Silence Radio de février 2020 se termine. Je vous propose de se revoir. De se réécouter en tout cas en mars, et ce sera le troisième lundi du mois de mars. Vous aurez l'occasion, si vous aviez des informations pour les patients, nous on dit usagers, mais en fait on a dit patients aujourd'hui parce que c'est la loi. Droit des patients, mais effectivement, on a plutôt tendance à parler d'usagers. Donc, actuellement, ça pose d'ailleurs pas mal de débats, enfin, ça suscite pas mal de débats. Comment vous avez peut-être des coordonnées à communiquer ou non, pas spécialement ?
Moi, je peux simplement vous référer au site web www.patientrights.be. Et là, il y a pas mal d'informations concernant les droits du patient, les services de médiation.
Ok, merci beaucoup. Et l'émission sera c'est vendredi le 13 mars, rediffusion de cette émission-ci sur les ondes de Radio Panique.
Et puis aussi la toute prochaine émission, donc, qui sera le 16 mars, et dont le thème c'est le développement personnel, qui trouve de plus en plus de bouquins consacrés dans les librairies, et on va essayer de comprendre un petit peu cette prolifération qui représente en fait un marché assez juteux. Donc ça va être une émission, on va essayer, assez critique.
Effectivement, des livres de développement personnel par dizaines, par centaines, voire par milliers, on n'arrive plus à les compter. Il faut dire qu'ils nous promettent la lune. Comment leur résister? Mais sont-ils si efficaces? Pourquoi apparaissent-ils en masse aujourd'hui? Peut-on parler d'une injonction à être heureux? Quid alors pour les gens comme nous, en quelque sorte, sans vouloir vous blesser, mes amis, mais les mélancoliques, les dépressifs, ceux qui boivent, s'ennuient, ou encore ceux qui sont empêtrés dans un circuit de soins. La seule place enviable est alors laissée aux êtres dits positifs, ou encore à ceux que l'on appelle dans les feel good managers, ceux-là même qui ont été choisis dans certaines entreprises américaines, entreprises en tout cas, pour égayer la journée de leurs collègues. Être mal, souffrir, c'est être faible, non productif. Si lire du développement personnel peut faire du bien, est-ce bien acceptable, raisonnable, de se contenter d'une société qui valorise de plus en plus l'intériorité?
Et donc, il y aura un invité, en fait.
Oui, et nous accueillerons Nicolas Marquis, docteur en sociologie et professeur à l'Université Saint-Louis, auteur du livre « Du bien-être au marché du malaise », un livre qui est édité chez PUF, collection Partage du Savoir. Il est 17h58, nous laissons l'antenne au mois prochain. Au revoir.
Bonne soirée.
Bonne soirée.